rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous culture. Aujourd'hui, Amy, Frédéric, Antoine et moi-même Anne allons vous présenter des œuvres que nous avons particulièrement appréciées. Donc nous allons commencer par Mes fous de Jean-Pierre Martin, Nuit Appalaches de Chris Offutt. Nous enchaînerons avec Les roses fauves de Carole Martinez et Croire aux fauves de Nastasia Martin. Ensuite, après un intermède musical, nous parlerons de Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech, de Lénine à Chamonix de François Garde, de l'album Aimé de Julien Doré et d'une belle BD Une rencontre d'Isabelle Ponce et de Swann Merali. Ensuite, pour notre dernière partie, nous ferons un petit focus sur quelques très très bonnes séries, donc En thérapie, Mum et OVNI. Puis nous parlerons encore de musique avec Ma de Devendra Banhart et un film avec Médecin de campagne de Thomas Litley. Toutes ces œuvres, vous pourrez bien sûr les emprunter ou les réserver à la bibliothèque de Compiègne, car je vous rappelle que la bibliothèque est ouverte. Malheureusement, vous ne pouvez pas encore vous installer pour lire ou travailler, mais vous pouvez bien sûr choisir vos documents pour en profiter chez vous. Alors, je vais commencer par vous présenter « Mes fous » de Jean-Pierre Martin, qui était en lice pour le Goncourt. C'est un récit intime qui mêle l'humour, une mélancolie teintée de désespoir et de noirceur, et de poésie. Notre narrateur est Sandor Novik. Fraîchement quitté par sa femme, parent récemment décédé, il est père de 4 enfants, dont l'une est schizophrène. Il est proche de la dépression, il s'arrête de travailler et décide de se pencher sur la folie, dans tous ses états. D'abord, pour approcher l'énigme Constance, écrit-il, sa fille internée qui se perd dans son chaos intérieur. Sandor essaie de comprendre la détresse psychique pour éviter de sombrer lui-même. Et aussi parce qu'il a le sentiment que les fous ne cessent de rôder autour de lui. Il les aimante, à moins que ce ne soit lui qui recherche leur compagnie. Et est-ce qu'il ne serait pas un peu fou lui-même? Il se met à déambuler dans sa ville, à observer les gens dans les rues, les gares, le métro, et à chaque endroit, il trouve un fou. Il se demande ce qui attire chez lui les malmenés de la vie à s'y pencher. Il en rencontre tellement qu'il leur assigne des noms. On a le fou météo, le fou politique, le fou littéraire. Il y a la dame en rose, la marcheuse rumineuse. Il constitue ainsi un herbier psychotique. Et pour approfondir son étude, il assiste à des conférences sur la folie. Quand il en parle, la forme de l'essai n'est pas loin. C'est un auteur universitaire et ça se ressent. Il convoque d'ailleurs des grands écrivains qui ont soit été fous, soit côtoyé la folie ou écrit dessus. Ses références littéraires émaillent le roman, mais elles arrivent toujours bien à propos pour nourrir sa réflexion. On a ainsi Romain Gary et son grand amour schizophrène Ilona Gesmé, il y a André Breton et sa Nadja. Et on a aussi Jacques Kerouac qui se passionnait pour les marginaux, mais aussi Hölderlin, Schumann et bien sûr Michel Foucault. Alors s'il aborde toutes les formes de maladie mentale, du petit grain à la folie furieuse, du bipolaire au suicidaire, il évite cependant le style trop clinique. Et malgré propos qui pourraient s'avérer vraiment déprimants, il en ressort un roman bienveillant qui ouvre notre regard sur des gens différents. Je cite « Vivre de cette proximité est une souffrance, mais aussi peut-être la promesse d'un autre rapport au monde. Les fous ignorent l'emploi du temps, ils nous rendent métaphysiques. » Il y a deux choses que j'ai vraiment adorées dans ce roman. Alors d'abord, c'est son humanité touchante. Il se marque par une absence de jugement, de critique ou de moquerie. Il n'y a même pas de voyeurisme. Son regard n'est jamais condescendant. Il porte un réel intérêt et une sollicitude respectueuse, une tendresse amusée à ses corps errants. Ce sont des êtres que nous, on évite quand on les croise, mais lui, il les écoute et il a l'art de la compassion. Il fait exister les fous, il dit même tenter de leur rendre un peu de leur noblesse. Il est perméable à la détresse d'autrui et je trouve remarquable la pudeur, notamment dans la façon dont il évoque la maladie de sa fille. C'est une pudeur bouleversante. Je cite encore « Isée et moi, depuis que notre fille s'est absentée, nous vivons dans une intranquillité telle que nous nous sentons parfois étrangers aux autres et à nous-mêmes. » J'aurais envie de vous citer plein de phrases tellement il y en a de belles. Le deuxième élément que j'adore, c'est le ton léger, la douce ironie qu'il emploie. Et les moments cocasses, qui prêtent souvent à rire. C'est délicat, sensible. Et plus qu'un roman sur la folie, c'est un très beau roman sur la vie telle qu'elle est, comme quand on la regarde avec sensibilité. Donc, je laisse la parole à Frédéric.
Alors, bonjour d'abord. Nuit à Palache, par Christophe Huth. Christophe Huth, né en 1958, et grandit dans le Kentucky, sur le contrefort des Appalaches, au sein d'une communauté minière. Il est issu d'une famille d'ouvriers. Une fois son diplôme en poche, il entreprend un voyage en stop à travers les États-Unis et exerce différents métiers pour vivre. En 1992, il publie un premier recueil de nouvelles. Cet ouvrage est suivi en 1997 par Le Bon Frère, son premier roman. Pendant les 20 années suivantes, Christophe Huth délaisse la littérature pour le cinéma. Il nous revient en 2019 avec son roman « Nuit à Palache ». Donc quelques mots de l'histoire. À la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de 18 ans, est de retour dans son Kentucky natal. Sur son chemin, il croise Rhonda, 15 ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d'un trafiquant d'alcool, Bean Paul, et au cours des 10 années qui suivent, malgré leur extrême précarité, les Tucker s'efforcent de vivre heureux avec leurs 5 enfants, qui naîtront pas tous en très bonne santé malheureusement. Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattants de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est le talent de Christophe Huth, ce talent incroyable de raconter les histoires de gens dont on ne parle jamais, des sortes d'invisibles, et de les rendre passionnantes et émouvantes. Il décrit aussi très bien cette Amérique provinciale et archaïque à des années-lumière des grandes mégalopoles. On retrouve un peu de l'Amérique rurale des années 60, et telle qu'il nous l'a décrit, elle semble immuable et encore de nos jours. Nuit à Palache est une histoire âpre, mais dont le souffle poétique exhale son lot de violence. Certaines scènes sont difficiles, mais la vie de ces communautés est aussi difficile. Huth sait parler de ces écorchés qui n'ont que les poings pour s'exprimer, ces hommes accrochés à leur terre autant qu'à leurs proches, qui restent en marge de la société. C'est un roman intense à découvrir tout à fait cessante. Je passe la parole à Amy.
Merci Frédéric. Bonjour à tous et toutes. Donc, je vais vous présenter Les Roses Fauves de Carole Martinez. Alors, l'idée de ce roman est apparue à l'auteur, Carole Martinez, à la suite d'une rencontre entre elle et une lectrice, lui ayant raconté une coutume espagnole ayant cours autrefois en Andalousie. Donc, en effet, ce roman retrace une tradition ancestrale du cœur cousu qui veut que chaque femme, parvenue au crépuscule de sa vie, laisse en héritage à sa fille un cœur de tissu rempli de petits morceaux de papier sur lesquels elle confiait les secrets amassés tout au long de sa vie et qu'il est interdit d'ouvrir sous peine de malédiction. Le roman retrace plus particulièrement la vie de Lola, postière d'un petit village breton, solitaire et passionnée de jardin. Dans sa chambre, sur les étagères d'une grande armoire, reposent 5 cœurs en tissu de ses aïeules espagnoles. 5 cœurs qu'on pourrait dire qui palpitent. Alors, quels secrets contiennent-ils ? Que disent-ils de l'histoire familiale de Lola, criblée d'exil et de trous noirs ? C'est ce que l'on découvre lorsque l'un des cœurs se déchire, libérant ainsi les secrets de son aïeule, Inès Dolores, femme au destin tragique et passionné. Et élevée dans un jardin coupé du monde, comme une fleur sauvage, frappée en même temps par l'amour et par la tragédie. Une tragédie qui n'empêcha pas Dolores de prendre son destin en main, car les femmes y ont ici le premier rôle. La romancière nous fait partager leur intimité, la force de leurs sentiments, leurs peines et leurs jouissances. Et autour de ces témoignages viennent s'enrouler comme autant de tiges de ronces les histoires locales et les légendes qui imprègnent passé, avenir, hommes et végétaux. Tout se mêle, se confond, les époques se brouillent autour d'une seule certitude, l'amour. Les Roses Fauves n'en est pas moins un livre qui parvient, avec brio, à emprunter au merveilleux pour le transposer dans le réel. Donc je passe la parole à Antoine.
Merci Amy. Alors pas de roses fauves chez moi, mais des fauves quand même, puisque je vais vous parler d'un récit qui s'appelle « Croire aux fauves », d'une auteure qui s'appelle Nastassia Martin et qui est anthropologue. En fait, c'est un récit qui m'a été recommandé très chaudement par un ami, Khalil Khalsi, qui est chercheur et qui travaille sur les récits de rêve. Et là, ce n'est pas un récit de rêve, mais il y a quand même une forte dimension onirique. En fait, donc c'est Nastassia Martin, une anthropologue française, qui raconte sa rencontre avec un ours. Et ce qu'elle appelle sa rencontre, en fait, c'est un combat qui se termine par le fait qu'elle ait la moitié du visage arraché et la mâchoire complètement démantibulée. Et c'est ça qui parcourt un peu toute l'ambiguïté de ce récit. Je vous lis les premières lignes du récit. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant, et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, mes mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine, aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouvertes d'humeurs et de sang. C'est une naissance, puisque ce n'est manifestement pas une mort. Comme vous le voyez, on est dans une certaine ambiguïté. Pendant tout le récit, on se demande si Nastassia Martin est géniale ou si elle est folle, si elle est brillante ou si elle est idiote. Et on est aussi dans toute cette ambiguïté de notre rapport à la nature, de notre rapport aux animaux, de notre rapport à une forme d'irrationnel aussi. Et c'est un récit très facile à lire. Ça fait 150 pages, c'est très beau, c'est très bien écrit. Alors que c'est écrit par une anthropologue, on est dans un style qui n'est pas du tout universitaire, qui est très fluide, qui est très beau. Et c'est très perturbant, en fait. On s'interroge sur notre manière de percevoir les limites de notre corps, les limites de notre rapport à la violence, notre manière d'intérioriser la violence. C'est un récit qui m'a beaucoup apporté et je n'ai pas encore lu les autres livres de Nastassia Martin, mais à vrai dire, j'ai assez hâte. Et quand j'ai trouvé ce livre à la Bibliothèque Saint-Corneille, j'étais très heureux. Ça fait longtemps que je voulais le lire et il date de 2019, mais je pense que c'est un livre qui aura un grand avenir.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
On s'en fout de vous.
le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Vous venez d'écouter le titre « Nous » de l'album « Aimé » de Julien Doré. Julien Doré donc a sorti un album au mois de septembre dernier, donc qui est son cinquième album. Julien Doré est un artiste dont je suis les évolutions musicales depuis ses débuts et que je trouve toujours aussi touchant, exubérant et créatif, notamment dans cet album qu'il a écrit et composé entièrement. C'est un album sur la transmission pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le titre est nommé en référence au prénom de la grand-mère et de la mère de Julien Doré. Ensuite, il nous transmet sa vision du monde actuel, ses espoirs et ses engagements pour la sauvegarde de notre planète. Et pour l'artiste, c'est son album le plus intime. Donc j'apprécie plusieurs titres, donc, dont le titre « Nous » que vous avez donc eu l'occasion d'écouter aujourd'hui. Et également le titre « L'île au lendemain » qui est sa collaboration avec la chanteuse Clara Luciani. Donc en quelques mots, c'est une véritable dentelle auditive pleine de douceur et de légèreté. Donc je vais passer la parole à Anne.
Oui, alors je voulais vous présenter un premier roman de Caroline Dorca Fenech qui s'intitule Rosa Dolorosa. On est à Nice. Rosa tient un restaurant. Elle s'apprête à ouvrir un hôtel avec son fils Lino qui a 23 ans. C'est un hôtel avec un grand aquarium à méduses dans le hall, parce que Lino est fasciné par les méduses. Leur rêve est à portée de main, jusqu'à ce que survienne le drame. Lino est arrêté pour le meurtre d'un jeune garçon de son entourage qui l'initiait à la plongée. Rosa alors est sidérée et son monde s'effondre. Elle est confrontée à l'impassibilité de la police, ainsi qu'au chagrin et à l'animosité des parents du défunt. Dès lors, elle va s'acharner à disculper son fils. Mais un sentiment de malaise l'envahit peu à peu, insidieusement, tout comme nous, le lecteur. Et le doute s'immisce. Ce malaise grandit comme les tentacules de la méduse et aussi comme la tache sur sa jambe, une constellation veineuse violacée qui s'accroît au fil de la souffrance, comme si sa chair était habitée par son fils. La phlébite revient en leitmotiv, elle tisse des résonances entre la douleur morale et la douleur physique. Ces résonances créent une ambiance envoûtante et confèrent un charme vénéneux à ce roman. C'est un beau roman sur la puissance du lien maternel et aussi sur la culpabilité. C'est un roman sur une mère en proie à un déchirement intérieur. J'ai été fascinée par la façon dont l'auteur décrit la mécanique inexorable, terrifiante et tragique. C'est le cheminement de l'adoration au doute, de l'empathie à la répulsion. L'écriture est à la fois sensuelle et directe. Elle fait ressortir l'aspect inéluctable de cette descente aux enfers. Ce moment de balancement entre l'amour inconditionnel d'une mère et l'effroi devant la cruelle vérité est vraiment saisissant et on est dans une atmosphère à la Visconti. Et jusqu'où alors une mère peut-elle aller pour défendre son fils ? Et douter de son enfant, est-ce faillir à son rôle de mère ? C'est autant de questionnements captivants dans lesquels nous plonge ce roman qui se lit comme un thriller et qui nous emmène jusqu'à un dénouement vraiment bouleversant. Je laisse la parole à Frédéric.
Oui, donc Lénine à Chamonix de François Garde. Né au Canet en 1959, François Garde est juge administratif. Après 3 essais, il a publié 3 romans, dont Ce qu'il advint du sauvage blanc, qui a reçu le prix de l'Académie française. En 2020, François Garde relève un nouveau défi. Il s'essaye aux nouvelles. Donc, quelques mots des principes de quelques nouvelles. Voilà. Un jour de l'été 1903, un agitateur russe débarque à Chamonix, filé par un agent de la police secrète du tsar. Qu'a dit le jeune Lénine à son hôte chamonnière pour le convaincre de vendre ses emprunts russes avant la révolution annoncée ? Nous ne le saurons jamais, sans doute. Un séjour de Lénine dans la vallée de Chamonix, un gardien de phare échoué dans un refuge, un diamant du Malabar princesse qui se raconte à la première personne. Voilà tout le talent de narrateur de François Garde se met au service de ces 12 nouvelles réjouissantes. Alors, ce qui m'a plu beaucoup dans ce livre, d'abord, François Garde déploie son récit avec la jubilation que procure la liberté littéraire. Toutes ces nouvelles qui ont pour cadre principal la montagne croquent avec acuité et gourmandise des personnages, des attitudes mentales, des métiers et mille manières d'habiter le monde là où les auteurs, parfois fantastiques, imposent leurs lois. Donc je rappelle que l'auteur arrive à étendre largement le champ des possibles, puisqu'entre refuge et balade, on se retrouve dans la peau d'une pierre précieuse à Notre-Dame de Paris ou même à la frontière du réel. Les surprises sont au rendez-vous. Je vous recommande ces nouvelles. Je passe la parole à Antoine.
Merci Frédéric. Alors, comme souvent, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est un peu mon coup de cœur de la semaine, qui m'a été recommandée par ma collègue Eléa. Et ça s'appelle Une rencontre d'Isabelle Ponce et Swann Merali. Et comme vous pouvez vous y attendre, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est une rencontre entre un homme et une femme, entre un homme qui se sent seul, même avec sa copine, et qui repense à sa femme et à son fils qu'il a abandonné il y a quelques années. Et puis, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui qui les a abandonnés ou est-ce que c'est eux qui l'ont abandonné? Et donc, il rencontre une femme japonaise qui a suivi son copain à Paris et qui s'interroge également, qui se demande si vraiment elle a suivi son copain à Paris ou si en fait c'est autre chose ou quelqu'un d'autre qu'elle a suivi. Et ils se rencontrent à travers un carnet qu'ils laissent dans une embrasure de fenêtre et où ils écrivent des choses, chacun son tour, au fil des jours, sans se rencontrer. Et puis, petit à petit, peut-être, ils vont se rencontrer. Alors, je ne vous spoile pas le livre, je ne vous dis pas exactement comment va se passer et est-ce qu'elle va vraiment se passer, cette rencontre physique, est-ce qu'elle va donner. Mais c'est un roman, c'est pas un roman, c'est une bande dessinée très douce, très tendre. En fait, on reconnaît, ça pourrait quasiment être une bande dessinée de Vanida, une auteure dont je vous ai déjà parlé et qui est emblématique de ce style hybride entre la bande dessinée et le manga. Vous vous rappelez peut-être que dans les bibliothèques de Compiègne, on travaille sur le sujet depuis quelques mois et on prépare une exposition qu'on avait prévue pour février, qu'on a repoussée à mars en raison de la situation sanitaire, mais qu'on espère pouvoir vous montrer prochainement et qui parle justement de ce style très particulier des auteurs de bande dessinée français influencés par le manga. Et donc, quand on lit Une rencontre, on a souvent l'impression de lire Vanida ou Nicolas Hitori II. Et en tout cas, on a ce plaisir très particulier de cette douceur, de ces ellipses un peu différentes qui font que ça donne une sérénité qu'on retrouve, je trouve, dans aucun autre style de bande dessinée. Donc je vous recommande très fortement la lecture de ce livre qui est disponible à la Bibliothèque Saint-Corneille.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
I got my ticket for the long way round. Boom, boom, boom. Two bottle of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. Yo, I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone.
When I'm gone.
When I'm gone.
When I'm gone.
You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere.
You're gonna miss me when I'm gone.
Take it.
rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Vous venez d'entendre Cups de Lulu and the Landshaped, qui est la bande originale de la série Mum dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc Mum est une pépite britannique, une des séries les plus drôles que j'ai vues. Elle est écrite par Stéphane Golaszewski et elle comporte 3 saisons de 6 épisodes de 30 minutes. Elle met en scène Cathy. Cathy est une femme proche de la soixantaine qui vit dans un pavillon de banlieue. Elle vient de perdre son mari. Dans l'enterrement inaugure la série. Ce jour funeste est l'occasion de voir défiler tout le petit monde qui va graviter autour d'elle durant les 3 saisons. Car ils ne vont jamais la quitter de peur qu'elle ne se sente seule. Donc s'incruste chez elle son fils et sa petite amie, une bécasse attendrissante et vraiment très très drôle, son frère et sa dernière conquête, ultra snob, obligé de s'adapter à un train de vie plus modeste depuis que son mari riche l'a quitté. On a aussi les beaux-parents acariâtres, même Tati Daniel peut paraître gentille à côté d'eux. Et enfin Michael, l'ami d'enfance du couple, qui va voir ses sentiments pour Cathy évoluer et qui va la draguer discrètement et surtout maladroitement. Cette relation spéciale entre Cathy et Michael est l'arc narratif principal, qui fait qu'au-delà des scènes ordinaires de la vie quotidienne, qui rythment chaque épisode, on reste suspendu à l'intrigue. Les personnages sont excessifs, vraiment caricaturaux d'une façon comique, à l'exception de l'héroïne, qui est toujours douce, souriante, maternelle, attentive et intelligente. Elle doit supporter son entourage infect, mais elle le fait avec une patience extraordinaire. Le dynamisme est essentiellement verbal. On est dans une sitcom avec une unité de lieu, donc c'est la maison familiale dans les 2 premières saisons qui s'étalent chacune sur 1 année. Et on est dans une maison de campagne pour les vacances pour la 3e saison. Paradoxalement, le côté excessif des personnages va favoriser les émotions et distiller une chaleur humaine très touchante et attachante. Les rapports qu'ils entretiennent entre eux sont souvent odieux, mais une vraie tendresse les relie. C'est un précieux équilibre entre rire et larmes et un sommet de bienveillance sans aucune niaiserie. Alors maintenant, je voulais vous parler aussi de 2 séries françaises. Très rapidement, une beaucoup plus grave mais passionnante qui passe sur Arte, qui s'appelle OVNI. En thérapie d'abord, dont les médias parlent beaucoup, donc vous avez dû en entendre parler. En thérapie, c'est vraiment une série passionnante avec des acteurs fabuleux que nous vous conseillons absolument. Ensuite, plus confidentiel, je vais vous parler de OVNI. Donc là, c'est une série française aussi, très 70s, de 12 épisodes de 30 minutes, réalisée par Anthony Cordier, qui a fait Gaspard va au mariage en 2017. C'est une comédie loufoque et burlesque, avec des touches romantiques, lunaires et de la poésie. On est en 1978. Le héros est ingénieur aéronautique, campé par Melville Poupeau moustachu. Il est mis au placard après l'explosion de la fusée qui devait offrir à la France son rang dans la conquête spatiale. Il est muté à la tête du département du Centre national d'études spatiales, chargé d'enquêter sur les ovnis. C'est le GEPAN. Le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il faut savoir que c'est un véritable service dédié aux affaires étranges et inexpliquées qui a été créé en 1977 en France. Dans ces locaux, notre héros va se retrouver avec 3 assistants hétéroclites aux idées fumeuses. Quand une pluie de flamants roses s'abat sur un champ, notre ingénieur cartésien finit par admettre, comme Fox Mulder dans X-Files, que la vérité est ailleurs. Et il est vite bousculé dans ses certitudes. Il ne faut pas s'attendre à une série à grand spectacle et à un déluge d'effets spéciaux. C'est l'humour, le décalage et la poésie qui priment. Les dialogues font mouche et les acteurs sont toujours excellents. On a même Nicole Garcia qui reprend le rôle de l'homme à la cigarette de X-Files. Et on a ainsi plein de clins d'œil au cinéma et aux séries. C'est vraiment une série singulièrement drôle à voir sur Canal+, et que nous aurons bientôt en DVD à la bibliothèque. Maintenant, c'est à Frédéric, il va nous parler musique.
Alors, je vais vous présenter l'album Ma de Devendra Banhart. C'est le premier album de Banhart depuis Ape in Pink Marble, sorti en 2016. Pardonnez mon accent. Ma est débordant de tendresse, de clins d'œil autobiographiques et témoigne du passage de l'expérimentation sonore de ses précédents albums à une histoire complexe et captivante ainsi qu'à une intimité émotionnelle. Ce sont des mélodies très douces, très apaisantes. Devendra privilégie les sons organiques pour accompagner sa voix et sa guitare, des arrangements renforcés par des cordes, des bois, des cuivres et des claviers. Je vous le recommande chaudement. Je passe la parole à Amy.
Alors moi, je vais vous parler d'un film qui s'intitule « Le médecin de campagne » de Thomas Lilti. C'est un long métrage, ou pourrait-on dire docu-fiction, sorti dans les salles en 2016 et réalisé donc par Thomas Lilti, dans lequel les deux personnages centraux, un médecin de campagne et sa consœur, sont incarnés par François Cluzet et Marianne Denicourt. Nous voilà donc à la rencontre de Jean-Pierre Werner, médecin de campagne depuis des années. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est là pour ses patients, effectue des déplacements et consulte à son cabinet. Mais Jean-Pierre est malade, atteint d'une tumeur au cerveau, et s'il veut se soigner, il va devoir lever le pied. C'est ainsi que débarque Nathalie, médecin depuis peu, venue de l'hôpital pour le seconder. Mais Jean-Pierre et ses patients ne voient pas forcément d'un bon œil cette nouvelle venue, mais évidemment, ils vont devoir s'apprivoiser et faire face ensemble à leurs difficultés. Ancien médecin, Thomas Lilti aborde le film avec une connaissance du métier qui lui permet d'insuffler énormément de réalisme, de rendre hommage à ce métier ô combien central dans nos sociétés, ce qui rend ce film si humaniste et salutaire. Je passe la parole à Anne.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous culture des bibliothèques. Donc je récapitule, Frédéric nous a présenté Nuit Appalaches de Chris Hofeu, ainsi que Lénine à Chamonix de François Garde et en musique Ma de Devendra Bana. Amy nous a présenté Les Roses Fauves de Carole Martinez, ainsi que Aimé de Julien Doré et Médecin de campagne de Thomas Lilti. Antoine nous a présenté Croire aux Fauves de Nastasia Martin et la BD Une Rencontre d'Isabelle Ponce et Swann Merali. Pour ma part, je vous ai présenté Mes Fous de Jean-Pierre Martin, Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech, ainsi qu'un petit focus sur trois séries, Mum, En Thérapie et OVNI. Nous vous rappelons que si vous avez envie, vous pouvez réagir à ce rendez-vous, à tout ce que nous avons présenté. Vous pouvez aussi partager avec nous votre coup de cœur, des découvertes ou des déceptions. N'hésitez pas. Notre prochain rendez-vous sera le vendredi 19 mars pour une séance spéciale Japon, à l'occasion de notre exposition et une série d'animation à la lumière du soleil levant à partir du 13 mars, si tout va bien.